Radio Shalom, le journal vous est présenté par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous. Le prince héritier saoudien a affirmé qu'il souhaitait faire partie des accords d'Abraham lors de sa rencontre hier avec le président américain Donald Trump. Mais nous voulons également, dit-il, nous assurer que la voie vers une solution à deux États est clairement tracée. Par ailleurs, le prince héritier saoudien a proposé d'investir pour mille milliards de dollars, j'y arrive même pas, vous imaginez la somme, pour 1000 milliards de dollars aux États-Unis. Il demande Il commande 48 avions F-35 pour son armée. Benjamin Netanyahou a effectué une visite dans la zone tampon de la frontière syrienne, accompagné de son ministre de la Défense et du ministre des Affaires étrangères, ainsi que évidemment le chef d'état-major. Un vaste réseau de contrebande d'armes en provenance de Syrie a été démantelé au cours du dernier mois par une opération conjointe du Shin Bet et de l'armée. L'affaire implique plusieurs habitants du nord du pays, dont 5 soldats, et c'est là évidemment le point le plus important, des soldats qui trafiquent avec des terroristes syriens, qu'ils soient en service actif ou des réservistes, ainsi que plusieurs civils syriens. Il semble cependant que cette affaire soit plutôt criminelle que nationaliste ou islamiste. Le Mossad a révélé une vaste opération internationale visant à neutraliser des infrastructures du Hamas implantées en plein cœur de l'Europe. En Allemagne, en Autriche et dans d'autres pays, des raids coordonnés ont conduit à la découverte de cellules clandestines du Hamas, prêtes à agir sur commande. À Vienne, une opération menée en septembre par les services de renseignement autrichiens a permis de mettre la main sur des armes, des pistolets, des engins explosifs destinés à des attaques contre des cibles israéliennes et juives. La question du forum des auditeurs de ce soir à 18h30. Craignez-vous que Trump impose un État palestinien ? Vous nous appelez au 01 43 36 04 06. 01 43 36 04 06. Craignez-vous que Trump impose un État palestinien ? Le forum, c'est à 18h30. C'est tout de suite après le journal. Et on part pour Jérusalem. On le retrouve, notre correspondant permanent, Dror Even Sapir. Bonsoir, Dror.
Bonsoir.
Dror, alors, la rencontre de Donald Trump avec le prince héritier saoudien amène à la fois beaucoup de choses qui vont dans le sens de la paix, puisque, je viens de le dire à l'instant, le prince héritier s'est prononcé pour les accords d'Abraham et il prononce les mots qu'on attend de lui. Il dit « je veux faire partie des accords d'Abraham ». Mais bon, il y a aussi ces contrats d'armes qui sont absolument mirobolants, qui inquiètent beaucoup en Israël.
Oui, bien évidemment, la vente des avions de chasse furtifs F-35, c'est le nec plus ultra en termes d'avions de chasse. Et le fait qu'ils ont fourni à l'Arabie Saoudite dans quelques années, eh bien, va remettre en cause la supériorité militaire de l'armée de l'air israélienne, c'est incontestable. Et les Israéliens demandent aux États-Unis un certain nombre de compensations, notamment l'élargissement de la flotte déjà existante de F-35 dont dispose Tsahal. Mais concernant les accords d'Abraham, alors certes, un petit peu pour faire plaisir, sans doute à Donald Trump, le prince héritier saoudien a affirmé que oui, il soutenait les accords d'Abraham, mais avec une condition qui, pour le gouvernement israélien actuel, est absolument inacceptable, à savoir qu'il y ait une voie certaine, et c'est un terme qui pèse de tout son poids, vers l'établissement d'un État palestinien. C'est d'ailleurs, selon les commentateurs en Israël, un durcissement des positions saoudiennes, puisqu'il y a encore quelques mois, peut-être il y a encore deux ans avant le 7 octobre, les Saoudiens se seraient contentés d'un engagement du bout des lèvres d'Israël à mener des négociations sur le principe, uniquement sur le principe d'un État palestinien. Mais le 7 octobre et la guerre dans la bande de Gaza sont passés par là, et MBS, même s'il a peu de sympathie pour la cause palestinienne, doit tenir compte de l'état des opinions publiques dans le monde arabe.
Est-ce que, selon vous, le terme utilisé, comme vous venez de le dire à l'instant, une voie certaine, est comme ça qu'il faut voir les choses ? Parce que d'autres observateurs ont dit qu'il veut s'assurer qu'il y ait toujours une voie vers deux États. Est-ce que vous dites non, c'est de manière certaine qu'il veut un État palestinien ? Moi, par exemple, franchement, je n'ai pas entendu ça.
Non, si, si, c'est incontestable, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, s'assurer ou une boîte certaine, c'est effectivement le terme employé.
Ah.
Allô?
Dror, on a du mal à vous entendre, malheureusement.
Oui, oui, c'est le terme employé. Il a employé le terme d'une voie certaine vers un État palestinien.
Dror Even Sapir, je rappelle que vous êtes l'un des correspondants permanents de Radio Shalom à Jérusalem et je vous remercie. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Voilà, donc l'expression utilisée à l'instant, que vient de souligner Dror Even Sapir, accompagne également un souhait exprimé par le prince héritier de faire partie des accords d'Avram. C'est d'abord l'expression qu'il a utilisée hier lors d'une rencontre avec la presse avec Donald Trump.
Nous voulons faire partie des accords d'Abraham, mais nous voulons aussi être sûrs que la sécurité soit sur une solution à deux États. On doit travailler sur ça pour voir qu'on puisse préparer le plus vite possible. On a eu une bonne discussion à propos des accords d'Abraham. On a dit un État, deux États, beaucoup de choses. Et je suis sûr qu'on en rediscutera encore. Mais vous avez un bon feeling pour les accords d'Abraham. Oui, Monsieur le Président, nous voulons la paix pour les Israéliens, la paix pour les Palestiniens. Et ce sera bon pour la paix dans toute la région. Nous ferons le mieux possible pour arriver à ça.
Voilà, donc Ben Salman, le prince héritier saoudien, et le président des États-Unis, Donald Trump. Israël a lancé une nouvelle vague de frappes contre le Hezbollah dans le sud Liban. L'opération intervient peu après les appels à l'évacuation émis en arabe par le porte-parole de Tzahal, le colonel Avishai Adrae, à destination des habitants de Deir Kifa et de Shrour. Les explosions ont été signalées dans ces localités immédiatement après l'ordre d'évacuation. Tzahal annonce avoir éliminé plusieurs hommes du Hamas en train de franchir ce qu'on appelle désormais la ligne jaune, c'est-à-dire la ligne qui est une forme de démarcation entre les populations de Gaza et les positions de l'armée israélienne dans le nord de la bande de Gaza. Selon l'armée israélienne, les membres du Hamas se dirigeaient vers les soldats. Benjamin Netanyahou, qui a effectué une visite dans la zone tampon à la frontière syrienne, accompagné du ministre de la Défense, du ministre des Affaires étrangères, Gideon Saar, et de son chef d'état-major. Le père de l'un des deux enfants qui ont attaqué hier les Israéliens à Gush Etzion affirme que c'est le plus beau jour de sa vie parce que son fils, donc moins de 18 ans, est un martyr et qu'il a tué des Israéliens. Un vaste réseau de contrebande d'armes en provenance de Syrie a été démantelé au cours du dernier mois par une opération conjointe des services de renseignement israéliennes et de l'armée. Cette affaire implique plusieurs habitants du nord du pays, dont 5 soldats en service actif ou réservistes, ainsi que plusieurs civils syriens. Selon les services de sécurité, la cellule opérait depuis la zone du village syrien de Hadr, à proximité de la frontière du Golan, et avait à plusieurs reprises introduit clandestinement divers types d'armes sur le territoire israélien. Le Mossad a révélé une vaste opération internationale visant à neutraliser des infrastructures du Hamas implantées en plein cœur de l'Europe. En Allemagne, en Autriche et dans d'autres pays, des raids coordonnés ont conduit à la découverte de cellules clandestines prêtes à agir sur commande. À Vienne, une opération menée en septembre par les services de renseignement autrichiens a permis de mettre la main sur des pistolets et des engins explosifs destinés à des attaques contre des cibles israéliennes et juive. Raphaël Uzan nous a rejoint dans les studios. Bonsoir Raphaël.
Et bonsoir Bernard.
Alors, débat hier soir à la télévision entre Éric Zemmour et Raphaël Glucksmann. C'est à 18 mois de l'élection présidentielle. Les deux hommes ont débattu, si on peut appeler ça débattre, peut-être pas. On va voir ce que vous en dites. C'était sur le plateau de LCI.
Eh oui, hein, tout à fait, hein, Bernard. Durant près de 40 minutes, les échanges ont été particulièrement musclés entre les deux hommes, en profond désaccord sur de nombreux points, et le ton est monté à plusieurs reprises. dès le début, hein, Éric Zemmour avait l'intention hein, d'attaquer son adversaire du soir sur un thème qui lui est cher, celui de l'identité nationale. Alors, les deux hommes politiques ont des avis toujours très différents hein, l'une de l'autre, ce qui n'a pas manqué de faire monter la pression sur le plateau.
Tout est là pour répondre aux gens. C'était affligeant. Affligeant de banalité et de médiocrité. Vous étiez dans les années 80, monsieur Glucksmann. Vous n'avez pas bougé depuis les années 80, alors que le monde
vous,
a changé.
Vous êtes
alors que nous avons eu
40,
des.
Vous,
comment
Zemmour.
Dans les
vous
années 40
bah oui,
lesquelles 1840 ou 1740
En 1900.
1940 Ah, vous voulez dire quand on a perdu la guerre bah, vous savez, moi.
Question de crimes contre l'humanité.
Sans doute, j'aurais été. Ah, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en général. En général, mes interlocuteurs attendent un peu avant de me sortir Vichy, parce que ils se sentent en difficulté.
Bon alors attendez. Alors, est-ce que vous pouvez terminer votre phrase ?
Mais je termine ma phrase. En fait, vous êtes et vous êtes le fils de votre père évidemment, mais et on le regrettait en
Glucksmann
et de votre mère aussi évidemment. Mais vous êtes surtout le fils spirituel de Bernard-Henri Lévy. Vous êtes le même et vous êtes. L'identité des peuples vous intéresse quand ce n'est pas l'identité française.
C'est
sûr que l'Ukraine vous intéresse, la Géorgie vous intéresse.
Et puis de son côté, hein, donc, l'eurodéputé a conspué l'ex-chroniqueur de CNews en démontrant donc, les proximités idéologiques entre son interlocuteur et Vladimir Poutine, sans oublier Viktor Orban.
Je vais vous le dire. Parce que je veux vous combattre partout. Vous, vos amis, Marine Le Pen, Éric Ciotti, vos amis d'extrême droite. Et je veux vous reprendre le drapeau tricolore des mains. Et c'est l'erreur que vous faites.
Ukrainien.
C'est l'erreur que vous faites sur moi, monsieur Zemmour. La France ne vous appartient pas.
Ah non,
vous n'allez
c'est
pas.
Moi qui appartiens à la France.
Vous n'allez pas conquérir ce pays parce qu'en fait, vous ne l'aimez pas. La vérité, vous vous trompez complètement sur moi. S'il y a un patriote à cette table, ce n'est pas vous, c'est moi.
Vous avez tout le culot.
Et moi, je veux défendre la France
patriote
telle...
Patriote ukrainien ou géorgien ?
Laissez-le parler, s'il vous plaît.
Je veux défendre la France telle qu'elle est, pas telle que vous la fantasmez. Vous, vous fantasmez une France qui n'a en fait quasiment jamais existé.
Se sachant donc sur un terrain de jeu qu'il affectionne, le leader de Reconquête s'est lancé dans une longue tirade choc en citant les responsables des meurtres, notamment de la petite Lola ou encore de Philippines.
Monsieur Glucksmann, en Hongrie, il n'y a pas de petite Lola qui se fait découper par une Algérienne. En Hongrie, il n'y a pas de Thomas qui se fait tuer par un chaïd. En Hongrie, il n'y a pas une Philippine qui se fait violer et massacrer par un Algérien ou un Tunisien. En Hongrie, il n'y a pas un petit Elias qui, parce qu'il va jouer au foot,
Hongrie,
se fait tuer par un Africain. Qui
Hongrie,
je m'en moque,
votre frère serait milliardaire.
Mais
je sais pas
mais arrêtez,
votre
mon
beau-fils serait milliardaire.
Monsieur Glucksmann,
vous obéirez à Xi Jinping.
Oui.
En Hongrie, vous obéiriez à Vladimir Poutine. En Hongrie, vous supprimeriez les élections
Glucksmann,
libres.
Mais
laissez-le
laissez
terminer.
Glucksmann, attendez, monsieur Glucksmann, c'est
que vous
indigne. Vous en moquez de ces gens que j'ai cités.
Mais non,
vous en avez rien à faire.
Vous
en avez rien à faire, mais ça se voit.
Laissez-le répondre. Laissez-le répondre.
Je ne vous autorise pas à dire ça.
Vous ne m'autorisez rien du tout.
Laissez-le répondre. Laissez-le répondre.
Non,
non, là, vous ne donnez pas le bon exemple.
Je vais vous dire.
Vous utilisez ces victimes pour faire la
Arrêtez, vous ne donnez pas le bon.
Des accusations donc qui ont particulièrement agacé, hein, comme vous l'avez entendu Bernard, le député européen. Pour les personnes présentes devant leur télévision, à ce moment-là, l'échange est devenu donc inaudible, tant les deux hommes se hurlaient dessus, au point même que David Pujadas, hein, chargé d'animer et de modérer les débats, s'est levé de sa chaise et s'est
interposé. Mais moi j'ai vu des images, il s'est levé physiquement.
Mais oui, tout à fait, hein, pour demander donc à ses invités de se calmer. Donc comme vous l'avez entendu, vous ne donnez pas le bon exemple, a-t-il déclaré. Donc le débat s'est poursuivi devant un public sidéré à chaque invective. Éric Zemmour qui a longuement parlé de l'invasion islamique a même pointé du doigt une spectatrice voilée. Il l'a accusée de faire partie d'un projet.
Et ça j'ai vu aussi. Elle est à côté de lui. Il dit mais vous savez cette dame veut conquérir la France.
Donc en sachant donc qu'elle portait le voile et ce à quoi donc Raphaël Glucksmann a répondu la France est bien plus forte que ça. Vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Alors petit point dans les sondages donc à 18 mois de l'élection présidentielle donc Raphaël Glucksmann est crédité de 11% d'intention de vote et Éric Zemmour de 5%.
Donc ça fait deux fois plus. Voilà. Pour l'instant, on verra. Merci Raphaël. Eden Atia nous a rejoint dans le studio. Bonsoir Eden.
Bonsoir Bernard.
À l'approche du 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes, les centres d'aide alertent. Ils constatent une hausse des agressions sexuelles, on parle d'Israël là, et il dénonce le manque de données fournies par l'État.
51 000 cas de violences sexuelles ont été enregistrés en 2024 en Israël. C'est ce que révèle l'Association des centres d'aide aux victimes dans son rapport annuel. Une augmentation préoccupante, notamment chez les mineurs. Le service anonyme Anyteen, destiné aux adolescents, a reçu plus de 3 900 demandes, soit près de 30% de plus qu'en 2023. Les signalements se multiplient dans les écoles, les lieux de travail dédiés aux jeunes et les cas liés à des substances sédatives ou à des drogues du viol progressent. Pourtant, seule une victime sur 10 porte plainte. Mais l'association explique qu'il est difficile d'avoir une vision complète de la situation. Plusieurs administrations, pourtant légalement obligées de fournir leurs chiffres, ont refusé de transmettre leurs données. Parmi les administrations, il y a la police, le parquet, l'armée, les ministères de l'éducation ou du bien-être social. Face à ces refus, l'organisation a déposé plusieurs recours administratifs et envisage d'autres actions en justice. Selon les quelques chiffres fournis au Parlement, 81% des dossiers de violences sexuelles traités en 2024 ont été classés sans suite. Un peu plus de 700 mises en examen pour plus de 3000 dossiers clos. Des chiffres qui, selon l'association, témoignent d'un système à bout de souffle.
On part à présent pour l'hôtel des Jardins du Marais, où l'on retrouve Jérémy Chichportis. Bonsoir Jérémy.
Bonsoir Bernard.
Se tient à présent la conférence des maires contre l'antisémitisme. C'est une conférence internationale sous la direction de Shannon Seban. De quoi s'agit-il exactement ?
Bien, c'est une première en France qui est une conférence qui s'est baladée un petit peu dans le monde, qui a été en Australie, qui a été en Allemagne, qui a été aux États-Unis. En fait, c'est une conférence qui sert à mettre en lien les élus municipaux et les maires pour qu'ils échangent sur les bonnes pratiques pour lutter contre l'antisémitisme. Comme vous l'avez expliqué, j'ai rencontré Shannon Seban qui organise cette conférence parisienne au titre, puisqu'elle est directrice Europe du mouvement de la lutte contre l'antisémitisme. Elle nous explique pourquoi c'est important que ces maires se rencontrent. On l'écoute.
Vous savez, je crois que dans la lutte contre l'antisémitisme aujourd'hui, qui est un poison, l'antisémitisme est un poison, les maires et les élus locaux ont une grande responsabilité, tout simplement parce qu'ils sont au contact direct au quotidien de leurs administrés. Des habitants, des associations, des écoles, des agents municipaux et de la police, de tous ces acteurs-là qui aujourd'hui peuvent jouer un rôle pour faire changer les choses. Et donc ce sommet européen, qui est une initiative inédite, visera justement à faire émerger des bonnes pratiques, à mettre en avant des maires qui, à travers toute l'Europe, ont pu faire preuve de courage et ont le courage, effectivement, de dénoncer l'antisémitisme et de mettre en place des actions très concrètes pour lutter aujourd'hui contre ce fléau, que ce soit via l'éducation, via des plans locaux, des actions auprès des enseignants, des policiers. Et donc, ce sont ces exemples-là que nous souhaitons mettre en valeur aujourd'hui pour créer une dynamique.
Avec donc une reprise demain des discussions.
Alors aujourd'hui, c'est, on va dire, un pot d'accueil avec les différents maires qui arrivent, qui prennent un peu leur quartier, un dîner ce soir d'inauguration, mais le grand cycle de conférences va commencer à partir de demain et vendredi, en point d'orgue un petit peu, une visite du fameux quartier juif de Paris dans lequel nous nous trouvons, dans ce 4e arrondissement, dans le Marais, où on a par exemple le mémorial de la Shoah, le musée d'art juif et du judaïsme, et ce quartier historique avec à la fois ses synagogues et ses commerces que sont la rue des Rosiers. Pour terminer, j'ai aussi voulu interroger Shannon Seban sur les prochaines élections municipales, parce que nous sommes là à un rendez-vous de maire. Il y a quelques semaines, on en a beaucoup parlé sur l'antenne de Radio Shalom. Il y a eu les élections municipales aux États-Unis, avec notamment l'élection du maire de New York, Zohran Mamdani, qui est accusé par une partie de la communauté juive de ne pas assez se préoccuper de l'antisémitisme. Zohran Mamdani, qui est pris en exemple aujourd'hui par la France insoumise dans la perspective des élections municipales. J'ai demandé à Shannon Seban ce qu'elle pensait de cette stratégie. On l'écoute.
Quand vous m'interrogez sur l'élection Zoran Mamdani à New York et sur notamment les accointances de la France insoumise avec le nouveau maire de New York, rien ne m'étonne finalement. Vous savez, la France insoumise n'a eu de cesse que de se placer du côté du chaos et de celles et ceux qui cherchent à diviser plutôt que d'unir. Donc rien d'étonnant là encore. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher aux insoumis, c'est bien leur cohérence dans l'indécence et dans l'ignominie. Moi en revanche, ce que je veux dire, c'est que les maires et les élus locaux, oui, à l'approche des élections municipales de mars 2026, ont un rôle essentiel à jouer pour unir les habitants, pour lutter contre la haine sous toutes ses formes. On parle ici de l'antisémitisme, mais on parle aussi de la lutte contre le racisme, contre la haine, contre la discrimination, quelle qu'elle soit. C'est essentiel. Et donc, ces élus locaux qui, aujourd'hui, jouent sur l'instrumentalisation d'un conflit étranger, notamment sur l'instrumentalisation du conflit israélo-palestinien pour remporter des élections, je crois qu'ils finiront par se perdre sur le long terme. Cherchons à unir plutôt qu'à diviser, cherchons des solutions. C'est ça aujourd'hui la priorité.
Alon Maor est un ancien otage du Hamas et il s'est rendu sur la place des otages où c'est lui qui a joué sur le piano que vous avez tous probablement déjà vu qui a été installé pour lui. Donc lui, on jouait du piano pour les otages, pour lui. Il vient et c'est lui qui joue. Des chercheurs de l'université de Tel Aviv sont parvenus à freiner la progression de la SLA. Alors, on est à Tel Aviv avec Sivan Cohen-Wiesenfeld. Bonsoir, Sivan.
Bonsoir, Bernard.
Alors, je sais que c'est une révolution, mais il faut quand même d'abord nous expliquer c'est quoi la SLA.
Eh bien, Bernard, donc la SLA, sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot, est une maladie neurodégénérative mortelle et pour le moment incurable qui affecte les neurones moteurs et provoque la paralysie progressive de tous les muscles du corps. La plupart des patients décèdent dans les 3 à 5 ans suivant le diagnostic. Et donc, une étude d'envergure internationale menée sous la direction du professeur Eran Perlson de la faculté de médecine et de l'école des neurosciences de l'université de Tel Aviv a dévoilé un mécanisme moléculaire jusqu'alors inconnu constituant l'un des principaux facteurs provoquant la maladie, que les chercheurs sont parvenus à neutraliser au moyen d'une thérapie génétique à base d'ARN. Et selon eux, ces résultats pourraient ouvrir la voie à un traitement efficace contre cette maladie mortelle et actuellement incurable, et offrir un nouvel espoir à des millions de patients dans le monde.
Comment s'est déroulée cette étude ?
Eh bien, on sait que la maladie de Charcot attaque les points de jonction neuromusculaire, c'est-à-dire le point où les fibres nerveuses rencontrent les cellules musculaires et transmettent les signaux électriques du cerveau aux muscles. Cependant, les mécanismes moléculaires à l'origine de ces lésions restaient jusqu'à présent inconnus. C'est pourquoi aucun traitement efficace n'a pu être développé jusqu'à présent. L'étude actuelle s'appuie sur une caractéristique de la maladie découverte précédemment dans le laboratoire du professeur Perlson. À l'extrémité du nerf, donc à sa jonction avec le muscle, se forment des agrégats toxiques d'une protéine appelée TDP43, qui est normalement responsable de la régulation de l'expression des gènes. En essayant de comprendre comment se formaient ces agrégats toxiques, les chercheurs ont découvert que les cellules musculaires produisent de petites molécules d'ARN appelées micro-ARN 126, dont le rôle est d'empêcher l'expression de cette fameuse protéine à la jonction neuromusculaire tant que celle-ci n'est pas nécessaire. Or, il se trouve que dans le cas de la SLA, le muscle produit moins de ces micro-ARN, ce qui entraîne un excès de la protéine TDP43 qui va former des agrégats toxiques qui s'attaquent aux centrales énergétiques des cellules nerveuses, qui sont les mitochondries, provoquant un déficit énergétique et une destruction progressive des neurones moteurs qui entraîne la paralysie des muscles des patients. en utilisant à la fois des tissus prélevés chez des patients malades et des souris de laboratoire, les chercheurs ont montré que lorsqu'on réduit la quantité de micro-ARN 126, les neurones sont détruits et au contraire, une augmentation du taux de ces micro-ARN entraîne une diminution des agrégats toxiques et les neurones non seulement cessent de dégénérer, mais même se régénèrent.
Et quelles sont les conclusions de cette enquête ?
Eh bien donc, les chercheurs de l'Université de Tel Aviv ont identifié pour la première fois un mécanisme moléculaire crucial de la SLA à ses débuts, une baisse de la quantité de micro-ARN 126 transférée du muscle au nerf, entraînant la formation d'agrégats toxiques de la protéine TDP43 qui détruisent les neurones. Ils en ont conclu que l'ajout de micro-ARN 126 permet de sauver les neurones endommagés par la SLA et de prévenir la dégénérescence de la jonction neuromusculaire. Et donc, ces résultats pourraient servir de base au développement d'une thérapie génétique efficace contre la maladie, axée sur l'ajout de micro-ARN 126, qui pourrait apporter de l'espoir à des millions de patients atteints de cette maladie incurable et à leurs familles dans le monde entier.
Sylvain Cohen-Wiesenfeld, PhD de l'Université de Tel Aviv, je vous remercie. Bonsoir à vous.